leur quotidien, préoccupations et ambitions. C'est dans 100% jeunes. L'orientation scolaire et académique, l'entrepreneuriat et l'emploi, une émission des jeunes, pour les jeunes et avec les jeunes. Tous les vendredis à 9h15 et 20h30, le lundi à 13h30.
Bienvenue dans Capi Service, le magazine de la vie au quotidien. Le monde a célébré le 23 mai dernier la journée internationale pour l'élimination de la fistule sous le thème « La fistule est une violation des droits humains ». En République démocratique du Congo, on estime à environ 5000 à 7000 nouveaux cas de fistule chaque année selon le Fonds des Nations Unies pour la population. Cependant, la plupart des femmes souffrant de la fistule ne bénéficient pas des soins adéquats. En 2018, par exemple, seulement 900 cas ont été réparés dans quelques provinces du pays grâce à l'UNFPA. Alors, pour en savoir, nous recevons aujourd'hui Dr Dolores Nembunzu, médecin à l'hôpital Saint-Joseph de Limété, pour en savoir un peu plus sur la prise en charge médicale des femmes souffrant de la fistule. Docteur Dolores Nembunzu, encore une fois, bonjour.
Bonjour, Daniel.
La première question de savoir, c'est quoi la fistule?
La fistule, c'est une maladie qui touche la femme essentiellement. La femme dans ses parties les plus intimes. Donc, c'est une communication anormale entre les voies génitales de la femme et les voies urinaires, et quelquefois entre le rectum et les voies génitales de la femme. Et il y a des conséquences. La première conséquence, c'est une perte permanente d'urine, sans frein, du matin au soir, du 1er au 30. Donc la femme est dans ces conditions-là, parce qu'il y a ce trou qui a été formé dans son corps, ce trou que nous appelons la fistule.
La fistule, donc une communication entre les voies génitales et les voies rectales, c'est ça?
Voies génitales et rectales, voies génitales et urinaires.
Et urinaires.
Oui, principalement.
Et qu'est-ce qui cause cette communication-là?
Nous avons plusieurs causes, merci pour la question, mais la première cause, c'est à la suite d'un accouchement difficile. J'ai une femme qui n'a pas pu bénéficier des soins à ce moment-là. Donc cette femme avait besoin d'une césarienne qui n'est pas venue ou qui n'est pas venue à temps parce que les gens autour d'elle n'avaient pas conscience de sa situation.
Pourquoi? Parce que le bébé était tellement gros?
Oui, il y a plusieurs conditions. Chez les jeunes personnes, le bébé est gros et le bassin est petit. Chez les femmes qui ont beaucoup accouché, le bébé peut avoir un volume normal, il est mal positionné. Et on peut avoir les deux. Petit bassin, gros bébé, bassin normal et gros bébé qui ne peut pas passer. Ensuite, nous avons les causes chirurgicales. Une femme qui s'est fait opérer pour une cause gynécologique, une maladie ordinaire, entre guillemets, et à la suite de cet accident, de cette intervention, l'accident arrive. Ceci arrive partout dans le monde, même en Europe. Mais seulement en Europe, dès que ça arrive dans un bloc, il y a toute une équipe, les gens prennent en charge et ça se termine là-bas. Mais chez nous, la femme est obligée de sortir et de vivre cette situation. Troisième cause, c'est traumatique. Donc, il y a une agression au niveau du corps. Ça peut être le viol. Ça peut être un accident du trafic routier. Le bassin est cassé, la vessie est blessée. Ça peut être aussi dans les villages ou même en ville, la chute sur un objet qui va passer par les voies génitales et perforer ou la vessie ou les rectums. Évidemment, le viol, ça arrive. Quand ça arrive chez des personnes très, très jeunes, nous avons également ça. Il y a des causes congénitales. Une petite fille qui est née avec une anomalie et les urines vont couler tout le temps, et exceptionnellement les causes infectieuses. Mais c'est surtout les causes liées à un accouchement difficile pour lesquelles même, comme vous savez, on a fait une journée internationale pour l'éliminer.
Voilà. Donc ce sont là les causes des fistules. Et les manifestations, à part les urines qui vont couler sans arrêt, quelles sont les autres manifestations?
Les manifestations peuvent venir sociaux, économique ou sociale, psychosociale même, je dirais.
Oui.
Parce que la femme va s'auto-exclure, elle sent mauvais, elle sent les urines, elle n'ose pas approcher les autres. Et les autres aussi pourront l'exclure. Bon, pas l'exclure complètement de la communauté, mais par la stigmatisation, par les mauvaises observations, par des remarques malveillantes, on la fouille, on la met plus dans la... Elle ne peut plus participer aux faits.
À la vie sociale.
À la vie sociale, élémentaire, le deuil, elle ne peut pas aller. N'en parlons pas des fêtes. Donc ça, c'est une situation qui va conduire même à des sentiments de elle ne vaut plus rien. Elle va s'auto-déprécier et nous avons des personnes qui ont des tendances suicidaires. tant que cela va durer.
Parce qu'elle n'arrive pas à retenir ses urines et dans la société, elle est stigmatisée.
Elle est stigmatisée. Elle sent mauvais, elle n'est pas capable de se retenir. Et après, on va remonter vers les causes, que les gens vont rechercher une cause X, Y, Z.
Est-ce qu'on ne va pas dire que c'est les sorcières?
Oui, ça c'est la première
cause. Ça peut arriver. Hein.
Oui, beaucoup. On dit qu'elle est sorcière, elle n'a pas été capable de mettre l'enfant vivant par voie basse, elle n'a pas d'enfant, elle est passée ici, et sa sorcellerie se manifeste par les urines. Oui, ça arrive.
Ça arrive souvent.
Ouais, ouais.
Et souvent, dans quelle partie du pays on retrouve beaucoup plus de cas des fistules?
Partout. Là où l'accès aux soins est difficile, là où la communauté a une emprise sur le déroulement de la grossesse et le déroulement de l'accouchement. Et bon, nous avons été à la province orientale, il y en a eu, Ubundu, Lubutu, partout. Nous avons été à Mbandaka, l'Équateur, les gens qui viennent de Bujala, Boende, ils ont difficile à accéder vers les hôpitaux. Et même en arrivant dans ces hôpitaux, il y a des soucis de prise en charge. Les gens sont là, ils n'ont pas d'équipement, ou bien il y a l'équipement, les gens ne sont pas là. Donc c'est partout en RDC. Comme on dit, 2 millions de femmes en souffrent en Afrique subsaharienne et en Asie du Sud-Est. Et la répartition, je crois qu'il n'y a pas une prédominance. Le viol, il y en a eu quelque part à l'Est, mais pour l'obstétrique, c'est ubiquitaire, je peux le dire.
Voilà, donc on retient qu'en RDC, on a répertorié plus de 42 000 femmes souffrant de cette maladie, ont été répertoriées en novembre 2018 par l'UNFPA, et 500 à 7 cas de fistules obstétricales sont enregistrés chaque année. Oui. Alors docteur, dites-nous... quand on parle de la fistule obstétricale, ça veut dire qu'il y a plusieurs formes de fistules. Et qu'est-ce que ça veut dire d'abord, fistule obstétricale?
Obstétricale, c'est lié à l'obstétrique qui est la science de la médecine qui étudie l'accouchement.
Okay.
Donc c'est ça. Obstétricale, ça veut dire lié à l'accouchement, qui est un droit. La femme qui veut donner la vie, mais malheureusement, ça s'est mal passé. C'est pourquoi on dit qu'elle est évitable et on peut prévenir. Parce qu'on peut entourer la femme qui accouche de sorte que ça puisse bien se passer. Mmh. Et c'est ça qui révolte, quoi. C'est ça qui fait que les gens se mobilisent, parce que ça ne devait pas se passer de cette manière.
Voilà, ça ne devait pas se passer de cette manière. Alors dites-nous, qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui pour garantir une bonne prise en charge médicale des femmes souffrant de la fistule?
Bon, il y a 3 volets qui sont reconnus par l'UNFPA et par les organisations qui prennent en charge. Il y a la prévention d'abord. Comment éviter la fistule? En tout cas, c'est tout un monde. Maintenant, vous avez parlé des 42 000 femmes, ce paquet-là qui est en circulation, et chaque fois, ça arrive. Mais ce qu'il y a à faire, c'est d'opérer ces femmes, de les recevoir d'abord, de les examiner et d'offrir des soins holistiques. Ça veut dire un bon accueil, un bon counseling. On les prépare pour l'opération, celles qui peuvent être opérées, et de les opérer de la bonne manière qu'ils soient, c'est-à-dire une structure qui est bien équipée, avec des personnes qui ont la compétence. Ça, c'est très important.
Alors, ça veut dire qu'il y a des fistules opérables et d'autres qu'on ne peut pas opérer?
Non. Il y a des fistules qu'on peut soigner médicalement.
Okay.
C'est-à-dire un petit trou, on peut faire, on lui place la sonde pendant X temps, on l'aide. Il y a des fistules qu'on peut soigner, après ça demande une kiné, parce que le corps de la femme a connu des destructions telles que même si vous fermez la fistule, il y aura encore quelque chose, il y aura une ou deux interventions. Et il y a des fistules qui sont dites inopérables. Et bon, ça c'est encore une notion où ça dépend des capacités de qui le fait. Et il y a l'approche psychologique. Il faut accompagner ces femmes. Comme vous disiez, elles étaient stigmatisées. Il y a beaucoup de colibés, de mauvaises paroles, des moqueries, des mauvais traitements. Même on peut la taper, on peut lui dire pardon qu'elle est sorcière, on l'amène dans des lieux de prière.
Là, de la part de son conjoint déjà.
Oui, le conjoint c'est le mépris, c'est simple, lui il s'en va.
Il s'en va carrément.
Ah oui,
c'est fini, il n'y a plus de mariage.
Non, il s'en va.
Il abandonne la femme et les enfants.
Souvent il n'y a pas beaucoup d'enfants, mais quelquefois il y a des enfants, il s'en va. Il dit voilà, allez régler ça avec votre famille, nous allons voir après. Et bon, pour raconter une histoire, la semaine passée, on consultait une dame et dit voilà, bon, moi j'étais pas à la maison, mais le monsieur est venu voir ma famille pour s'assurer que je suis guérie, pour venir demander pardon. Ça se passe 80% de cette manière-là.
Et après qu'elle ait subi la réparation.
Oui, elle est réparée, elle est jolie, elle ne sent plus mauvais. Bon, et le monsieur s'approche. Mais ils abandonnent et puis bon, ce vécu-là est douloureux parce que c'était une histoire de joie. Les gens étaient ensemble, ils attendaient un enfant et puis ça se passe mal. Et parfois même les personnes qui étaient autour de l'accouchement, qui ont empêché à la femme d'aller aux consultations, qui l'ont accompagnée, ils ont vu comment il a souffert. Et cela participe aux moqueries Ils se comportent comme s'ils n'ont pas vécu le drame avec la femme. Mmh. Et ça, ça demande une approche psychologique.
Donc vous dites d'abord, il faut la prévention, travailler sur la prévention.
Oui.
Et puis ensuite
le traitement chirurgical.
Oui.
Et puis, il y a tout ce qui entoure le traitement chirurgical, la psychologie, la kiné, et puis bon, la nutrition aussi. Hein, parce que ces femmes qui perdent les urines de façon permanente ne veulent plus boire, ne veulent plus s'alimenter normalement, parce qu'elles savent que quand elles mangent telle nourriture, elles perdent beaucoup d'urine.
Beaucoup d'urine.
Et ce qui fait que nous recevons des personnes avec un état de dénutrition relativement avancé selon le cas.
Mmh.
Donc tout ça là, c'est un grand paquet qu'il faut offrir à la femme qui est malade, au-delà de la prévention. Et puis après le traitement, la réinsertion socio-professionnelle. Et ça, il y a UNFPA qui le fait. Et on donne des kits dignité à la femme qui sort de l'hôpital d'abord. Et puis après, je crois que l'UNFPA est en relation avec des ONG qui aident ces femmes à prendre un métier et à réinsérer la société après ces moments difficiles, aller retrouver les mêmes personnes qui sont moquées d'elles, et puis bon, reprendre une nouvelle vie.
Mmh. Mmh. Comment garantir la prise en charge médicale des femmes souffrant de la fistule? Nous invitons les auditeurs qui veulent participer à nous appeler au 081 890 63 94 et nous invitons également les femmes qui nous écoutent en ce moment. Mesdames, appelez-nous pour participer à cette émission. Nous avons déjà Jérémy en ligne depuis Lubumbashi et Gérard nous appelle des Djougou. Mmh.
Découvrez les modèles et les talents congolais dans le magazine Étoile. Des hommes et des femmes au parcours exceptionnel. Trouvez une source d'inspiration à travers ces personnes connues et ces citoyens lambda sur Radio Capi. Étoile, de la découverte à l'inspiration. Radio Capi vous propose des hommes et des femmes d'exception. Suivez-les dans le magazine Étoile tous les samedis à 14h05 et 19h05. Puis en rediffusion le lundi à 15h30, heure de Kinshasa.
Comment garantir la prise en charge médicale des femmes souffrant de la fistule? Jérémy, vous êtes à Lubumbashi. Bonjour.
Bonjour, monsieur Jody. Bonjour également à madame l'invitée avec vous. Nous saluons également la pertinence de ce sujet parce que il est tellement pertinent et a nécessité quand même de qu'on puisse y attirer beaucoup d'attention. Et je pense que les femmes dans les pays sous-développés, voire même en voie de développement, connaissent beaucoup de difficultés, surtout pour leur statut de vulnérabilité, à l'instar de celles qu'on retrouve spécifiquement dans notre pays. Il revient alors, monsieur Jody, à l'État congolais via le ministère de Santé, en collaboration avec celui des Arts et Familles, pour tailler sur mesure un programme bien défini, question de protéger la femme d'une manière générale. Parce que chaque jour qui passe, plusieurs femmes meurent dans lors des accouchements, tout simplement parce qu'ils n'ont...
Oui, Jérémy, la communication...
Aller à la CFN, oui. Soit tout simplement... C'est pourquoi je trouve que l'État, la balle au bon, question de pouvoir...
Désolé, vous sortez entrecoupé, Jérémy de Lubumbashi, vous sortez entrecoupé, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. On va accueillir Gérard de Djougou, bonjour.
Bonjour Radio Okapi, bonjour à tous les auditeurs de la Radio Okapi.
Oui, quelle est votre question par rapport à la prise en charge médicale des femmes souffrant de la fistule?
Ok, quant à moi, je pense que le grand problème, c'est l'échec de la SSP qu'on avait dit avoir installé en 1980 jusqu'à 2000 pour dire que les soins de santé primaire seraient implantés et fait partout en RDC. Alors la politique avait échoué. Et jusqu'à présent, c'est à cause aussi de l'insécurité, par exemple chez nous à l'Est ici. Même si les hôpitaux sont là, il y a des fois où les hôpitaux sont soit pillés, saccagés ou bien les personnels sont dispersés et on ne sait pas que faire. Et puis les viols aussi sont parmi les grands fléaux qui endeuillent aussi notre partie de la RDC. Et en plus de cela, je peux aussi dire que même jusqu'à présent, il y a des zones de santé ou bien qui ne tiennent pas compte de la politique d'utilisation, par exemple, des réseaux des comités de santé. Même s'ils sont là, ils ne sont soit pas supervisés ou bien pas pris à charge, on les prend justement pour seulement des fins qui peuvent seulement leur octroyer quelque chose, mais la prise en charge sanitaire comme telle n'est pas mise en considération. Mais si que vous verrez, même les centres de santé de référence ou des HR ne sont pas assez équitablement partagés dans nos côtés. Et puis, ce que je peux aussi dire, comment on peut parvenir à comprendre qu'en Europe, par exemple, selon l'invité, et que la fistule soit prise en charge correctement, et pourtant nos médecins excellent à l'extérieur. Nos médecins congolais qui sont à l'extérieur font de bons travail et vraiment ils excellent.
D'accord,
si
d'accord.
Si tu peux les intégrer à travailler en RDC, je pense que on peut diminuer, puisqu'on ne peut pas quand même supprimer totalement l'état, étant donné que c'est une pathologie qui peut toujours exister aussi longtemps que l'humanité sera à vie.
Merci Gérard de Djougou. Merci d'avoir appelé de Djougou, Kachai de Kanyoka. Nous invitons également les dames, les femmes qui nous écoutent en ce moment, d'appeler pour participer, poser vos questions à notre invité. Vous avez des témoignages, des préoccupations, appelez au 081 890 63 94. Kachai, vous êtes à Kanyoka, bonjour.
Bonjour Monsieur Jody et bonjour Madame l'invité du jour.
Quelle est votre préoccupation?
Merci beaucoup, Monsieur Jody. Avant de passer à la préoccupation, j'ai un cas de témoignage par rapport à cette maladie développée par madame.
Oui.
Monsieur Jody, ne connaissant pas surtout les enjeux de cette maladie, nous avons constaté un cas, lequel cas qui n'était pas normalement identifié à la dite maladie. Bon, on ne le savait pas. Nous l'avons connu dans la famille. Une jeune fille qui avait... on parlait de l'incontinence urinaire.
Oui.
Par rapport à certaines causes que madame a développées. On parlait de l'incontinence urinaire. On ne savait pas que c'est vraiment... les termes de la maladie, vraiment, est un peu difficile à prononcer.
Et dans la famille, alors, vous l'avez traité de sorcière?
Nous l'avons traité de sorcière parce que jusqu'à l'âge de 23 ans, lorsque une fille a fait un peu cette besogne-là, monsieur Jody. Comment vous pouvez la taxer Parce que jusqu'à 23 ans, comment vous pouvez la taxer? C'est ainsi que, ne connaissant pas que c'est parmi les causes de la maladie, alors on l'a traité de la sorcière, on ne la considérait pas des odeurs qu'elle dégageait, donc tout ça, personne ne savait, ne pouvait supporter tout ça. C'est ainsi que je profite pour demander à madame, alors, comment nous pouvons réinsérer socialement cette jeune fille-là qui était très longtemps déconsidérée et...
Est-ce que la jeune fille a été prise en charge, elle a été réparée?
Bon, la jeune fille n'a pas été prise en charge parce qu'on a seulement essayé de faire des pratiques coutumières.
Lesquelles?
Un comportement cérémonial, il faut...
Pour exorciser les mauvais esprits.
Et surtout ça. Alors, nous avons commencé à dire, bon, ça, c'est des esprits maléfiques qui gangrènent la jeune fille. Il faudrait commencer à chasser tout ça. Alors, pour cela, il faut demander à certains notables du village pour qu'ils siègent et trouver solution, ensemble avec les membres de la famille qui savent ce qui se passe normalement quand un tel cas se présente dans la famille.
D'accord, merci.
Alors,
merci
de... Mais quand cela ne tienne,
oui.
Quand cela ne tienne, monsieur, je dis, maintenant je voulais demander à madame quelques précisions, parce qu'elle a insisté sur le cas de l'accouchement et aussi par rapport à l'opération chirurgicale. Alors, comment elle peut demander à ceux-là, donc les corps soignants, de prendre normalement en charge la personne qui vient s'accoucher et aussi lors de l'opération chirurgicale? Que doit faire normalement le médecin sur le corps de la personne qui présente de telles maladies, ou soit pour prévenir à ce qu'une telle maladie ne puisse arriver? Merci beaucoup.
Bien, merci. Docteur Dolores, vous avez la parole.
Oui, merci beaucoup. Pour répondre à la dernière question, si je comprends bien, c'est depuis l'enfance que cette jeune fille est arrivée à 23 ans en train de perdre les urines. Bon, l'incontinence, c'est un terme générique. Et quand cette personne viendra au niveau de l'hôpital, nous allons voir à quoi est liée cette incontinence. L'incontinence, ça veut dire qu'elle n'est pas capable de garder les urines, en termes simples. Pour prévenir, le problème, c'est la bonne pratique. Il faut que les personnes qui sont en présence d'une femme qui vient accoucher ou n'importe quel autre patient qui est devant vous, il faut faire montre du professionnalisme. Et puis, il faut reconnaître ses compétences et ses limites. Si le médecin, l'infirmière, l'accoucheuse voit que moi, je n'arrive pas à faire ceci, il faut qu'il se réfère à une compétence supérieure qui peut être un médecin, ça peut être horizontal, à un collègue qui connaît mieux, ou bien vertical vers le supérieur, ou bien d'une structure à l'autre et on réfère la patiente. Quand on reçoit ce genre de personnes, il faut beaucoup d'empathie. Il faut d'abord soi-même suivre une certaine formation pour savoir comment accueillir ces genres de personnes et avoir un peu de compassion comme être humain, beaucoup d'empathie. Et puis, on va examiner et voir qu'est-ce qui va se passer par la suite. Donc, c'est ça, un peu en gros, ce qu'on doit faire.
Au lieu de la traumatiser, on l'amène pour une cérémonie et on va exorciser, chasser les esprits.
Oui.
Sûrement, elle est traumatisée.
Certainement qu'elle est traumatisée. Et puis, ça ne marche pas parce que même ceux qui font les cérémonies sont incapables, sont incompétents. Ils ont même été taxés d'incompétents parce qu'ils n'ont pas vaincu cet esprit. Donc, je pense qu'il faut faire la part des choses. Sans minimiser les gens, mais je crois qu'il faut que les gens sachent. Parce que, bon, moi, à la place de Jésus qui exorcise, je serais honteux parce que je n'ai pas réussi.
Oui. Et sûrement, au niveau local, ils n'ont pas su aussi. Il n'y a pas eu, peut-être, pas de centre de santé où elle a été prise en charge correctement.
Oui.
Et comme vous l'avez dit, il faut référer. Si ça dépasse vos compétences, il faut référer et envoyer les cas ailleurs.
Absolument. Bon, il y a des campagnes qui se font. Je sais qu'à Chikaji, à Kananga, vers tous les pays, il y a les campagnes qui se font pour la réparation des fistules. Et une situation pareille, il faut amener vers les personnes qui sont censées prendre en charge correctement. Et on peut donner des idées. Et puis bon, je sais par exemple que les gens de Panzi, quand ils font les tours, les cas difficiles, ils les ramènent à Bukavu. Et nous aussi, quand on a été en Mbandaka, des cas que nous pouvons opérer, mais pas dans les conditions des campagnes, on fait un effort pour les ramener ici. Bon, si la personne fait un effort, nous allons rembourser le transport et nous prenons en charge gratuitement avec d'autres partenaires.
Gérard Dedjougou nous dit que si y a aujourd'hui beaucoup de cas de fistules, c'est dû à l'échec de l'installation des soins de santé primaire un peu partout dans les zones de santé,
oui.
D'après lui.
Oui, je me rappelle, je peux même remonter aux années 98-99, quand j'ai fini mes études, jeunes médecins nous sommes venus, il y avait projet Saint-Ru, soins de santé primaire. Ça s'est passé très bien. Il y avait des routes, il y avait des compétences, il y avait des anciens qui étaient là, qui nous accueillaient, qui nous coachaient, qui nous formaient. Et maintenant, il n'y en a plus. Et il se pose un problème, non seulement de l'installation de ce programme, mais également de la formation. Si nous pouvons aller vers la prévention, c'est un océan. Il n'y a pas seulement le ministère de la Santé et du Genre, il y a le ministère de la Santé publique, de l'enseignement. Nous formons qui ? Les enfants, ils ne se disent pas délaissage. Il vient un jour en cours, deux semaines à la maison parce qu'il n'a pas
payé
Minerva. Et quand il vient, il n'est pas possible qu'il rattrape la situation. Et nous voyons ça. La conséquence est sur le terrain. Nous, les anciens, c'est dramatique parfois. Et c'est entre ces mains-là qu'on donne des malades, que nous, on se confie. Bon, le ministère de la Santé a fait bien. Il a créé l'école de sages-femmes, la corporation des sages-femmes. Maintenant, il faut que ces personnes-là soient ou pas. Il y a la communauté. Il faut que la communauté se rende compte que devant une difficulté, il n'y a pas que la sorcellerie, il n'y a pas que ceci. Une femme qui a ce genre de choses doit aller à l'hôpital pour l'accouchement. Et un enfant qui, au bout de 2 ans, n'est pas propre, ça devient une anomalie. Donc, il faut l'amener à l'hôpital. Et dans nos statistiques, nous avons 2,5% des cas de fissures congénitales. Et on les opère assez tôt, 8 ans, 12 ans, bon, assez tôt pour dire, le temps que la communauté se rende compte et qu'on fasse des trucs. La publicité à la radio, que nous parlions, que les gens sachent où amener les enfants. Donc, grosso modo, c'est comme ça. Une prise en charge à tous les niveaux. Au niveau de l'individu, au niveau de la communauté, au niveau de l'État, et chacun devrait jouer correctement son rôle.
Alors, par rapport à la prévention, je pense que l'accès aux soins de santé maternelle de qualité est un élément important pour réduire les risques au moment de la grossesse et de l'accouchement.
Absolument. Il faut bien identifier. Il y a des situations qu'on peut identifier déjà pendant la grossesse. L'infirmière va savoir que cette femme ne pourra pas accoucher par les voies naturelles parce que son bassin est petit, ou à la dernière consultation, l'enfant est gros. Et il faut qu'elle anticipe et négocie avec la femme.
Pendant les CPN.
Oui, ça c'est possible.
Donc on peut dire que ça arrive souvent aux femmes qui ne vont pas aux CPN.
Ça peut arriver à celles qui ne vont pas au CPN, même celles qui vont au CPN. Si le personnel qui est en présence n'a pas diagnostiqué, n'a pas fait l'état des lieux correctement, cette femme, même si elle a été au CPN, ça peut, elle peut passer par les mailles du filet. Ça peut arriver.
Ça peut arriver. Mmh.
Donc il faut une conscience à tous les niveaux.
On va accueillir René de Kananga, Piro Pania, nous appelle de Lubumbashi. Nous invitons également les femmes qui nous écoutent en ce moment. Appelez-nous au 081 890 63 94 pour participer à cette émission où, qui s'intéresse à la prise en charge médicale des femmes souffrant de la fistule. René de Kananga, bonjour.
Oh, bonjour monsieur Jubi, bonjour à la dame qui est sur nos antennes.
Quelle est votre question?
Bonjour à tous les auditeurs qui nous écoutent en ce moment à travers le pays.
Quelle est votre question par rapport à cette thématique?
Oui, par rapport à la thématique, j'ai trois explications avec moi ici. La première s'adresse toutefois par rapport à l'interrogation qui fait débat maintenant là. Je voudrais que la dame nous dise les pistes de solutions qu'il faut donner, surtout dans des milieux ruraux où il n'y a pas le poste de santé mieux équipé. Qu'est-ce que les femmes qui souffrent normalement dans des milieux ruraux avec de la fistule, qui souffrent de la fistule dans des milieux ruraux, peuvent faire pour l'instant là, parce que nous savons très bien que en RDC, le milieu ruraux, vraiment, il n'y a pas assez de postes de santé bien équipés, tout ça. Et vraiment, j'aimerais un peu savoir que la dame nous dise un peu, nous donne un peu des solutions vraiment qu'il faut un peu entreprendre. La deuxième, j'aimerais savoir, est-ce que la femme stérile peut être victime de cette maladie? La troisième, j'aimerais aussi savoir si normalement une fille qui se fait culbuter elle-même là par jour peut se faire culbuter à 4 ou 5 hommes par jour, est-ce que peut-elle aussi être victime de cette maladie? Je dis et je vous remercie.
Bien, merci. Piero Pagna, vous êtes à Lubumbashi, bonjour.
Bonjour, je dis bonjour à l'invité que je salue en passant parce qu'il parle des choses qui m'ont intéressé parce que je suis aussi personnel soignant.
Oui.
Ici à Lubumbashi. La thématique du jour est trop pertinente où nous parlons de fistule plus précisément obstétricale parce qu'il y a plusieurs formes. Moi, je suis intéressé par quelques questions. Alors, l'objectif de cette, du jour de 23 mai était pour le fistule obstétrical, dont plusieurs causes sont à la base. Nous citons les causes liées à l'accouchement. Là, il y a les instruments qu'on utilise lors des accouchements. Il y a les dystocies mal dirigées ou mal prises en charge aussi. Il y a aussi, lorsqu'on parle des causes, il y a les causes liées au viol. Alors, j'aimerais d'abord revenir sur ce que vous venez de parler avec lui là. C'était la détection à la CPN. Bien sûr, on n'en disconvient pas. Ici à Lubumbashi, il y a le centre qui pousse partout de privé. On ne sait pas. Ils sont comment ils sont inspectés? Il n'y a même pas les gens de la santé qui passent dans ces centres qui fonctionnent là. Alors, il y aura la difficulté parce que ces gens doivent être formés. Ce sont des cas compliqués qui demandent une intervention chirurgicale.
Oui, rapidement, quelle est la question? On peut citer?
Oui, la question que moi j'ai trois petites questions que je voulais poser. La première question était de savoir que prévoir ceci, il y a une organisation de lutte contre le fistule médical, le fistule obstétrical. Alors, cette commission-là organise pour que les erreurs commises par le personnel soignant qui ne sont pas formés et terminent. Ça, c'est une première question que je voulais poser. La deuxième question, c'est sur les interventions qui sont coûteuses ici chez nous au pays. Parce que lorsqu'on a ce sont des interventions qui coûtent plus de 1000 dollars. Et c'est pour cela que le docteur de Panzi à Bukavula, il a eu le prix Nobel, sont des expertises du lycée.
D'accord. Donc, les interventions coûtent cher. Qu'est-ce qu'il faut faire pour les rendre accessibles? Merci, Pierrot. La dernière question, rapidement.
La dernière question pour finir. Alors, le système, nous disons contre ce système. Qu'est-ce que le gouvernement prévoit pour lutter aussi contre les viols? Parce que tant qu'il y a les viols, on ne peut pas parler de lutter contre le système.
D'accord.
Les viols sont encore.
D'accord, merci.
Chaque fois, il y a des viols qui se font.
D'accord, merci Pierrot Pagna de Lubumbashi. Comment garantir la prise en charge médicale des femmes souffrant de la fistule? Docteur Dolores, vous avez la parole.
Oui, merci. Je commence par les préoccupations de René. Bon, les pistes de solutions, il y en a beaucoup, comme on a dit, en amont, l'éducation, la formation du personnel soignant. Et les femmes qui ont des fistules, il faut les orienter vers les grands centres. Bon, les orienter, je crois qu'il faut être au courant des tels que nous parlons à la radio au CAPI ici. Et peut-être prendre des informations par téléphone au niveau du chef-lieu de la province. Qu'est-ce qui se passe et quelles sont les activités qui s'y font? Parce que si la femme se déplace sans qu'elle sache où aller, ça peut poser problème. Maintenant,
et
là,
dans quel centre on organise la prise en charge?
Oui, nous organisons...
Dans les grandes formations.
Oui, par exemple, Wangata, en Équateur. Mais il y a aussi les amis de Panzi qui vont opérer vers Gemena, etc. À Kinshasa, à Kananga, à Chikapa, nous irons bientôt au mois d'août. Ici, au mois de juin, nous allons, la semaine prochaine, nous irons à Isiro, si les gens d'Isiro nous entendent. Après, nous serons à Kisangani la semaine du 18 au 25. Donc, c'est UNFPA, pour aussi joindre la préoccupation de Pierrot. UNFPA qui est en tête, c'est lui qui a le lead de cette histoire depuis 2003.
Qui organise des campagnes gratuites
des
réparations des femmes.
Oui, ça doit être gratuit. Ça devrait et ça l'est. Et le gouvernement facilite la collaboration, la coopération avec UNFPA, avec d'autres intervenants. Il y en a beaucoup. Il y a Fondation Panzi, il y a Pathfinder, il y a Engender Health, il y a Caritas, Mondial Vision Mondiale. Tout cela, c'est eux-là qui viennent aider le gouvernement. Donc, nous, le comité de pilotage de lutte contre la fistule existe ici à Kinshasa, dont je suis membre. Il y a le PENSER, l'université et plusieurs personnes actives dans cette matière. Et nous faisons les plaidoyers auprès du gouvernement, auprès des structures, le ministère de la Santé, etc. Et chacun devrait faire ce qu'il devrait faire à son niveau, Pierrot. Donc, nous sommes un peu là.
J'ai retenu la question de Pierrot. Il dit que parfois, la fistule est causée par des erreurs commises par le personnel soignant non formé.
Oui, c'est ça. Quand on mélange la profession avec ses croyances, ça arrive. Parce qu'il y a des personnels qui disent, « Madame, vous ne voulez pas pousser votre enfant? Vous voulez le couteau au Lingimbeli ?» Ça, c'est des choses qu'on a surpris des personnels en train de dire aux femmes. Non. Donc, il faut que les personnes soient bien formées. Je le disais, les personnes là qui sont formées par délestage, une semaine, elle est au cours, une semaine et demie, elle s'en va parce qu'elle n'a pas payé les Minerva. Donc, l'État devait rendre les choses gratuites depuis la formation, sans interruption. Nous, on était à l'école, on comptait les jours, on a été 222 jours. Celui qui avait 220 ou 200, on taquinait. Parce qu'on voulait vraiment être là tous les jours et assister aux cours. Et c'est ça... Parmi les choses où l'État devrait s'impliquer fortement, en tenant compte des plaidoyers que les gens qui sont sur le terrain les font, parce que les autres ont les bras ouverts pour nous aider.
Donc, et voilà, il a parlé des erreurs commises par le personnel soignant. Et puis, il dit que les interventions sont coûteuses. Il semble que ça, pour réparer une femme qui souffre de fistules, ça coûte beaucoup d'argent.
Oui, ça coûte beaucoup d'argent. Comme pour l'hôpital Saint-Joseph, selon le niveau... Ça coûte 500 dollars. Et plus vous montez à la clinique universitaire, ça sera cher. Parce que tout ça là, il y a les charges. Il y a les charges de la structure, etc. Donc, il y a plusieurs intervenants. UNFPA nous donne, ils payent tous les frais. Et l'autre va leur donner à manger. Et un autre intervenant va leur donner le transport retour. Comme il a dit, à Panne, ça s'est fait, oui. C'est le leadership de professeur Mukwege qui fait qu'il y a beaucoup de personnes. Il y a même des assistantes sociales qui aident ces femmes, des personnes qui leur donnent des vêtements. Donc, une approche holistique qui dépend beaucoup du leader qui doit le faire et des oreilles tendues de ses interlocuteurs.
Voilà, nous parlons de la fistule, la prise en charge médicale des femmes qui souffrent de la fistule. En ligne, Madame Christine nous appelle des Boutembo. Bonjour.
Bonjour, monsieur Jody, bonjour à l'invité et bonjour à tous.
On vous écoute. Quelle est votre préoccupation?
Dans la plupart des investissements pour la piscine, si ça réussit, la majorité réussit ou c'est comment? Et puis, quand cela arrive pendant l'accouchement, voudrais-je savoir, est-ce que c'est une rupture du sphincter ou bien c'est la vessie qui s'étroue? Ça a été un peu ça ma préoccupation. Je vous remercie.
Bien, merci. Docteur Dolores.
Oui. Actuellement, il est accepté que, à la première intervention, il y ait au minimum 88% doivent guérir. Donc, nous approchons les 90%. Et quand on a soigné, la femme est guérie, nous avons fermé le trou. Mais ça dépend du dégât, qui est la tête de l'enfant qui est descendue coincée, qui a coincé le bassin, la tête de l'enfant contre la vessie ou contre le rectum. Les dégâts qu'il y aurait eu là, on peut avoir le trou et une atteinte des sphincters. Donc, ce sont les pires cauchemars des chirurgiens consciencieux. Parce que quand vous avez fermé le trou, la crainte est que la femme continue à perdre les urines, non pas parce qu'elle a le trou, parce que le trou est fermé, parce que tout le système sphinctérien a été atteint. Donc, il y a la chirurgie, il y a des techniques préventives que nous faisons. Pendant l'opération, nous savons que telle fissure siège à tel endroit, voilà ce que nous devons faire pour accompagner. Ou alors, si ça ne s'est pas passé au cours de l'intervention, au cours d'une deuxième intervention, c'est possible de le faire. Je remercie beaucoup Christine de ses questions pertinentes. Apparemment, elle est technicienne. Oui.
Elle est du domaine.
Oui. Les questions sont assez orientées. Merci Christine.
Voilà, des questions et préoccupations, appelées au 081-890-6394. Vous avez dit pour garantir une bonne prise en charge des femmes qui souffrent des fistules, il y a d'abord la prévention. On doit travailler au niveau de la prévention, le traitement et la réinsertion socio-professionnelle. Vous avez dit que 88% des cas de réparation réussissent toujours.
Oui, ça.
Alors, après la réparation, maintenant, comment vous faites pour réinsérer socialement cette femme qui était traumatisée, qui était mise de côté pendant longtemps?
Oui. Actuellement, on peut dire que c'est encore le parent pauvre de la prise en charge. Parce qu'il faut qu'il y ait des intervenants. Bon, nous avons les normes et directives du ministère. Des 10 à édicter les normes. Il faut que les institutions médicales travaillent avec ceux-là, les ONG, orienter les femmes pour l'apprentissage de telle chose, ou métier, ou pratique qu'elles doivent avoir. Mais ça a un coût. Il faut que quelqu'un paye pour ces femmes-là. Elle doit payer peut-être son transport, et on doit payer l'apprentissage en coupe et couture, on doit payer les études à l'école d'infirmière. Nous avons une fille qui a été soignée chez nous, qui est prise en charge actuellement, et elle suit ses cours à l'ITEM Kintambo. Nous avons une qui est à l'INPP. Et ça a un coût. Mmh. Et pour les deux cas, ce sont les individus qui le font. Donc, il faut une conjonction d'efforts. Celles qui ne peuvent pas étudier, au minimum, savoir fabriquer préparer les micatés, fabriquer, je sais pas moi, le poisson salé.
Les activités génératrices de revenus.
Voilà, exactement. Mmh. Les AGRL qui vont les aider. Donc, pour nous, l'INFI est en train de faire ça. Bon, l'autre fois, nous avons parlé avec eux. Ils ont pris les contacts des femmes que nous avons opérées et qui sont encore à Kinshasa. Alors, ils vont les appeler, ils vont les
orienter. Ces femmes viennent des autres provinces pour être opérées à Kinshasa.
À Saint-Joseph, 87% viennent du Bandundu, essentiellement, c'est presque 48%. L'autre partie du Congo central, jusqu'aux confins de l'Angola, Songololo, elles nous arrivent. Et des Boende, des Bolobo, elles descendent le long du fleuve pour arriver à Kinshasa. Oui.
Cette campagne a été lancée quand, à l'hôpital Saint-Joseph?
Depuis l'année passée, avec l'UNFPA. Okay. Mais entre-temps, nous continuons à travailler. Nous travaillons en routine également. Deux jours par semaine, nous opérons. Et lors des campagnes, nous opérons un grand nombre et payés par le sponsor qui organise, à l'occurrence l'UNFPA. Mmh.
Donc, on peut dire que c'est une campagne permanente, en quelque sorte.
Oui, tous les ans. Tous les 23 ans. Oui. Le 23 mai, pardon, qui a été édicté Journée mondiale de lutte contre la fistule. Et ça se passe comme ça. Et c'est parmi les hôpitaux. Il y a Saint-Joseph, il y a Biamba Mutombo, clinique universitaire, à Kinshasa pour l'instant.
Alors, il y a quelqu'un qui a parlé, René, je crois, qui a parlé de Oupiro, d'un problème qui se pose dans les zones rurales. Il n'y a pas des postes de santé qui sont mieux équipés, les équipements. Ça, c'est aussi un problème qui se pose par rapport à la prise en charge médicale.
Oui. Qui fait quoi? D'abord, pour donner les soins de routine, l'accouchement, etc. Les centres sont ouverts, on ne sait pas qui est là, qui fait quoi. Et généralement, les personnes se livrent à un qui a une blouse blanche. Mais cette personne n'a pas forcément les compétences de conduire un accouchement et de détecter les dysocies. Comme l'a dit notre ami Pierrot, ça c'est un problème réel. Mmh. Et quand la femme vient avec fistule, bon, Il y a des gens qui font pas de bonnes pratiques. Ils vont bricoler. Or, nous savons en bonne chirurgie qu'il faut donner 90, 88 ou 90% de chances à la femme à la première intervention. Lors de la deuxième intervention, si le trou n'est pas fermé, les chances sont réduites à 50%. À la troisième intervention, c'est moins de 30%. Ça a été prouvé. Parce que la partie que nous réparons, elle est fine. Vous pouvez fermer le trou, mais il y a la cicatrisation qui va se faire. Il y a ce qu'on appelle la fibrose. Donc, les tissus deviennent cicatriciels forts. Pour opérer une deuxième fois, il faut être technicien pour bien voir qu'il y ait du sang. Après qu'on ait fermé, qu'il y ait du sang pour que le trou se forme. Sinon, vous allez mettre deux tissus, deux papiers ensemble. Quand les fils là auront fait son temps, ça va se refaire. Donc, il faut la bonne pratique, l'éthique professionnelle, la conscience. De ne pas faire les choses qui ne sont pas à son niveau.
Il n'y a que les chirurgiens qui peuvent faire ça.
Oui. Même les chirurgiens simples, ils peuvent le faire, mais suivant une formation. Panzi actuellement organise une formation et nous allons accueillir une équipe au mois de septembre. Mais il y a des équipes étrangères qui sont venues être formées chez nous, les Togolais en l'occurrence, et des gens qui sont dans notre structure du BDR, Bureau diocésain des aides médicales de Kinshasa. Donc il faut, c'est la conscience professionnelle, les gens doivent savoir ce qu'ils font.
D'accord. Chose. Donc chacun doit savoir faire ce qu'il doit faire.
Oui.
Alors maintenant parlons au niveau communautaire, au niveau de la société. Comment est-ce que les parents, les frères et sœurs, vous avez suivi l'histoire de cette jeune fille de 23 ans qui a été traitée des sorcières à Kananga et puis bon, on l'a exorcisée et pourtant c'était un cas des fistules. Comment est-ce que la communauté peut réagir par rapport à une personne, une femme qui souffre de la fistule?
Bon, il faut considérer comment c'est arrivé. Si c'est arrivé au cours d'un accouchement, il faut s'approcher d'elle, il faut l'accompagner. Si c'est comme le cas de notre fille depuis la naissance, il va falloir aller voir des grands spécialistes. Je crois que si les amis qui sont à Kananga vont à l'hôpital de Tshikaji, il y a des grandes compétences qui vont opérer là-bas, ils vont voir ce qu'ils peuvent faire pour cette personne-là. Il y a des personnes qui ont, comme on dit en médecine, un ensemble de défauts au niveau du corps, pour ne pas dire syndrome polymalformatif. Peut-être qu'il y a cette situation-là, il y a des choses qui ne sont pas curables. Par exemple, s'il a un problème au niveau des nerfs qui partent au niveau de la colonne vertébrale, qu'on appelle spina bifida, ça, on ne pourra rien faire. Mais si c'est des choses congénitales où il y a un mauvais emplacement du canal qui conduit les urines du rein vers la vessie, on peut faire une réimplantation et cette personne est guérie. Donc, le conseil, c'est voir des compétences qu'il faut. Des personnes, à qui on peut faire confiance. Pas des gens qui mélangent des choses, la médecine et la sorcellerie, même si la sorcellerie peut exister, je crois que c'est mieux d'épuiser tout ce qui est objectif, tout ce qui est rationnel, et voir effectivement des personnes qui peuvent donner une réponse. Ouais. C'est ce que je peux conseiller.
Et les maris ne doivent pas abandonner leurs femmes,
plutôt
les accompagner pendant ces moments difficiles.
Oui, parce que les hommes, pour prendre la femme, qu'est-ce qu'ils font pas? Ils réunissent l'argent, ils réunissent tout le monde, ils viennent donner la dot, il est content de trouver une femme. Et la femme a été avec lui, ils étaient ensemble, ils étaient heureux d'attendre un événement comme l'accouchement, la naissance d'un enfant. Et abandonner, je crois, c'est un peu lâche. C'est lâche parce que aussi il y a des problèmes économiques. Quand ils voient que c'est impossible de réagir, ça coûte cher, etc. Bon. Ils se rétractent un peu, arguant la sorcellerie et consorts. Et généralement, ils reviennent. Mais il faut pas qu'ils abandonnent. Il faut être compatissant et accompagner sa femme. Ne pas écouter les oiseaux des mauvais augures qui disent des choses.
Mais certains disent non, rentrer dans ta famille, c'est un problème familial, aller arranger en famille.
Oui, ça se passe comme ça. Et ceux-là reviennent toujours. Quand la femme guérit, il la voit passer, elle est plus jolie, elle est plus détendue. Après, il s'approche. Ah non, excusez-moi, je suis toujours la mère, le père de vos
enfants.
J'ai commencé, d'ailleurs, j'ai donné ma dot, j'avais pas de problème, c'était sa famille, maintenant ta famille. Maintenant, ça se passe bien, je reviens. Bon, ça, c'est pas bon.
C'est pas bon.
Non. Au simple mot, on va dire.
Parce qu'il y a des femmes qui acceptent de reprendre la relation ou elles sont catégoriques parce qu'elles étaient abandonnées et puis le monsieur revient quand ça marche maintenant.
Oui, ça varie.
Ça varie, ça dépend.
Ça dépend. Il y en a qui sont catégoriques, qui refusent et qui prennent un autre homme. Il y en a qui disent plus jamais je vais me marier. Et d'autres, bon, femme marche arrière. Parce qu'il dit non, au début, il était bien, mais c'est parce que sa famille l'a mal conseillé qu'il s'est en allé. Bon, Ça dépend.
C'est bien. Variable. Alors, docteur Dolores, comment se présente la suite du programme? Vous avez dit que vous allez vous circuler dans toutes les provinces pour réparer ces femmes qui souffrent de la fistule. Comment se présente le programme?
Bon, le programme maintenant, le ministère du Genre, à l'époque, Madame Chantal Safou avait dit, nous recevons de l'argent de l'extérieur. Il faut maintenant que nous soignions les femmes qui souffrent de la fistule avec l'argent congolais. Elle avait organisé une soirée des galas l'année passée, le 26 mai de l'année dernière. Mmh. Et actuellement, je crois que dans deux semaines, nous allons, l'UNFIA avec le ministère du Genre, va organiser encore une soirée des galas pour récolter les fonds. Donc c'est avec les fonds qu'on va récolter que nous irons opérer dans des structures bien identifiées. Et bon, et à nous,
il y a également l'implication de la Première Dame aujourd'hui dans,
oui,
dans
oui,
cette
oui,
lutte
oui,
contre
oui,
la
oui,
fistule.
Oui, elle devait être avec nous le 23, mais je crois que, bon, je ne sais pas, ça c'est les organisations des responsables. Mmh. Elle est très impliquée par rapport à la, comment on dit, l'autonomisation de la femme, que la femme ne devait pas, par rapport à la vulnérabilité de la femme, elle tient vraiment à entourer ce genre de cette question-là, et je pense que ça sera fait. Après la récolte des fonds, bon, nous sommes des techniciens, hein. Là où ils nous diront d'aller, bon, pour que ça se passe bien, qu'il y a sa sécurité, que, bon, on va aller, il n'y a pas de souci.
Alors, pour terminer, docteur, on peut résumer ce que nous avons dit tout au long de cette émission. Qu'est-ce qu'il faut faire pour garantir une bonne prise en charge médicale des femmes souffrant de la fistule?
Bon, médicale, c'est la femme qui est déjà malade de la fistule. Il faut une vulgarisation telle que nous faisons, et si nous en parlons, et les amener là où on peut les prendre en charge correctement, parce que c'est gratuit. Il faut voir loin. Après l'avoir prise en charge, il y a tout ce qui accompagne psychologique et puis surtout la réinsertion pour lui permettre de retrouver sa place dans la société.
Et là même, vous avez parlé aussi de l'alimentation.
De l'alimentation, oui. Au-delà de tout, c'est la prévention. C'est une maladie qui est évitable. Au-delà du fait qu'elle est guérissable par la chirurgie et la psychologie et qu'on sort, elle est évitable.
Comment?
Donc, par la formation correcte des personnes qui prennent en charge la femme qui est en accouchement. D'abord, pendant la conception prénatale, et la femme qui accouche, on doit savoir. C'est comme vous ici, vous êtes en train de regarder les données, à telle heure nous allons faire ceci, à telle heure, telle émission. Pour l'accouchement, c'est la même chose, Joyce. Nous devons savoir qu'une femme qui est en travail, après tel moment, nous devons faire ceci. Si ça ne marche pas, voilà le plan B. Les personnes qui sont en charge des accouchements doivent être bien formées pour éviter la fistule. Voilà, c'est ça. Et puis, nous devons dénoncer aussi les mauvaises pratiques communautaires qui consistent à faire boire aux femmes des décoctions amères pour qu'elles puissent pousser l'enfant et que la femme doit toujours, toujours accoucher par voie basse et qu'il faut monter sur les ventres de la femme pour qu'elle pousse l'enfant. Ça,
wow.
C'est dans la responsabilité.
Ça se fait aujourd'hui, on monte sur les ventres pour pousser les bébés.
On prend un costaud comme ça, là, il dit, il faut venir pousser l'enfant. Des gens qui ne connaissent pas l'anatomie, ils ne savent pas l'orientation de l'enfant en sortant. Et ça fait l'objet de sketch de la journée du 23 à Biamamou Tombo. Les infirmières ont démontré ça et c'est comme ça que les femmes déclarent. Elles ont subi la violence. Donc il n'y a pas que le viol, il y a même cette situation-là, c'est une violence obstétricale.
Bien sûr. Bien, docteur Dolores Nembouzou, médecin à l'hôpital Saint-Joseph de Limété, ici à Kinshasa. Merci d'avoir répondu à notre invitation et à la prochaine.
C'est moi qui vous remercie. À bientôt.